Vous écoutez
RMC. RMC 7-9, Anaïs Matin.
Anaïs Castagna.
Bonjour à tous, vous écoutez Anaïs Matin. Ravie de vous annoncer que nous avons de la compagnie ce matin. Ali, fidèle auditeur d'RMC, va passer toute la matinée avec nous, comme je vous l'avais annoncé. Vous savez, c'est la grande nouveauté, tous les premiers dimanches du mois. Un de nos auditeurs vient suivre l'émission et prendre le petit-déj avec toute l'équipe d'Anaïs Matin. Ali, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Ali.
Ça fait quoi d'être là dans le studio d'RMC? Comment vous le trouvez? Je veux tout savoir.
Alors moi, je vais faire ça en une phrase. Il y en a qui rêvent leur vie et moi, je vis mes rêves.
Waouh.
Voilà, donc là, toutes ces années auditeur, j'ai connu Fred, j'avais 17 ans. J'ai connu Anaïs qui accompagnait Jean-Jacques Bourdin qui était toute jeune.
Ne dites pas que j'ai vieilli.
Non, je dis ça. Donc on prend de la maturité, on va dire.
Donc vous êtes ravis. Et donc oui, Fred, bonjour Fred, comment
bonjour
ça va?
Bonjour Anaïs, ben, ça va très bien.
Ouais.
On a plein de petits trucs des auditeurs pour consommer moins d'essence, de l'éco-conduite. Je crois que tu as un invité très intéressant.
Exactement,
tout à l'heure.
Patrick Mirouz, président du réseau ECF, premier réseau d'auto-école en France, pour parler des sages d'éco-conduite. Parce que de plus en plus d'entreprises font appel aux auto-écoles pour former leurs salariés gros rouleurs, leur dire comment consommer le moins de carburant possible. On va en parler tout à l'heure, 7h40, et puis vous nous appelez évidemment au 3216 pour nous dire comment vous faites très concrètement. Ce matin, on va aussi parler de barbecue avec ce défi assez fou. Ce week-end, du côté de Lyon, a explosé le record du plus long barbecue du monde, celui qui dure le plus longtemps, record jusqu'ici détenu par les Américains, 40h59 minutes en relais, en équipe. Eh bien, Cyril Leroy, mon invité à 8h40, double champion de France de barbecue, veut que le sien dure 74 heures. Il va tout nous dire. Je vous attends aussi au 32-16 pour nous dire si vous êtes attaché à cette tradition du barbecue. Est-ce que c'est un art de vivre? Quels sont les ingrédients indispensables pour réussir un bon barbecue? Tiens, vous nous dites au 32-16 et sur WhatsApp. Et puis évidemment, ce matin, je pense à nos supporters marseillais. Dépités après avoir vu ce qu'ils ont vu hier, la défaite 3-0 à Nantes. Vous voulez venir nous en parler? On peut vous consoler. Allez, on vous attend évidemment tout au long de la matinée au 32-16. D'abord, à 6h59, un point complet sur la météo avec toi, Peggy.
Et bonjour Anaïs. C'est un temps bien perturbé, bien pluvieux sur une bonne partie du pays, sur l'ouest en tout cas. Dans l'est, on a pas mal de nuages et quelques averses. Et cet après-midi, sur une bonne moitié ouest jusqu'aux Ardennes et les Pyrénées, ce sera des averses localement orageuses avec de la grêle, du vent, de fortes bourrasques de vent possibles. Sur l'est, on va conserver ce temps nuageux avec quelques averses. Retour de quelques éclaircies sur l'arc atlantique dans l'après-midi. Et puis on a du vent d'autant notamment. Les températures, elles sont très douces. On est souvent entre 11 et 16 degrés ce matin, mais cet après-midi, on perd 3 à 6 degrés par rapport à hier. 16 à 18 près de la Manche, 20 à 22 sur la majeure partie du pays. Et encore des pointes à 25 degrés sur le nord-est.
Merci Peggy.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
Vous écoutez RMC, il est 7h.
RMC 7-9, Anaïs Matin.
Et votre journal est présenté par Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Le plafonnement de Total Energy jugé trop timide face à la flambée des prix des carburants. Le premier ministre Sébastien Lecornu appelle ce matin dans la tribune dimanche à plus de générosité. Le repas à 1 euro généralisé dans les restos universitaires dès demain. Alors qu'en pensent les principaux intéressés? RMC est allé leur poser la question. Rien ne va plus à l'OM, défaite 3-0 face à Nantes. Et dit au revoir à ses chances de qualification pour la Ligue des Champions. Les Canaries, eux, peuvent toujours rêver de maintien.
Le gouvernement redoute une crise sociale.
Entre les bénéfices records de Total Energy et la hausse des prix des carburants, le Premier ministre tente de rassurer ce matin dans la tribune dimanche et demande Sonia Gobry à Total Energy d'être plus généreux.
C'est du bon sens pour Sébastien Lecornu. S'il refuse tout Total bashing, il estime qu'avec un plafonnement des prix des carburants généreux, les Français verront l'intérêt d'avoir un groupe pétrolier français. Le Premier ministre compte aussi sur Total parce qu'il est sous pression. Hier, des dizaines de pêcheurs, agriculteurs et transporteurs ont manifesté. Ils estiment que les aides mises en place sont largement insuffisantes insuffisante et il y a aussi ceux qui les attendent, comme les VTC et les taxis qui doivent rencontrer le ministre des Transports cette semaine. Sauf qu'il n'y aura pas d'arrosage d'argent public, prévient Sébastien Lecornu. La France est déjà très endettée, le Premier ministre assume donc d'avancer à petits pas. On fait du sur-mesure, répète-t-il en privé, mais il redoute une crise sociale, que les manifestations se multiplient dans le pays, alors il rassure. Il est évident, dit-il, qu'on adaptera les dispositifs en fonction de la durée de la guerre au Moyen-Orient.
Marine Le Pen estime qu'une taxation des super-profits de Total Energy sera nécessaire. Ainsi, le plafonnement des prix des carburants à la pompe ne suffit pas. La leader du RN milite également pour une baisse de la TVA sur les carburants. Téhéran dégaine un plan en 14 points pour mettre fin au conflit. Donald Trump va l'examiner, mais il reste très prudent, voire sceptique. Parmi les propositions, des concessions majeures sur les sanctions et le nucléaire, le plan fixe un délai d'un mois pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas 5000 soldats américains qui seront retirés en Allemagne, mais bien plus. Mot du président américain Donald Trump, la diminution des effectifs américains annoncée vendredi par le Pentagone est prévue dans les 6 à 12 prochains mois. Un retrait qui était attendu, affirme le gouvernement allemand. Donald Trump reproche un manque de soutien dans son offensive lancée fin février sur l'Iran.
Le repas à 1 euro dans les Crous devient accessible à tous dès demain.
Le dispositif était jusqu'ici réservé aux boursiers et aux plus précaires. Il est désormais généralisé. Une bonne nouvelle largement saluée, même si certains étudiants pointent déjà quelques limites. Amine Lafchin et Solène Leroux sont allés les rencontrer.
Étudiante en deuxième année de droit, Margot a pris l'habitude chaque jour de venir à la fac avec son propre repas.
Moi j'habite chez mes parents, du coup en général on fait un peu plus quand on mange le soir et du coup je peux ramener les restes le lendemain.
Une routine qui lui permet de faire des économies, car jusqu'à présent, si elle voulait manger au Crous, elle payait son repas 3,30€, trop cher pour cette étudiante au petit budget.
Je travaille l'été, donc j'ai des petits revenus, je fais aussi des babysitting à côté.
Donc là j'imagine que pour toi c'est une bonne nouvelle que le repas passe à 1€.
Oui, c'est une bonne nouvelle, pour mes parents ça va les aider aussi.
Comme Margot, Garance n'est pas boursière et chaque mois, la moindre dépense est calculée.
En fait, je tiens un tableau Excel. Et c'est vrai que c'est très très dur de le tenir. J'ai pas l'argent d'aller faire les courses toutes les semaines. Absolument pas. Sauter des repas, c'est hyper récurrent.
Elle salue cette mesure, mais pour elle, ce n'est pas le principal problème du Crous.
En termes de quantité, c'est une honte. C'est compliqué à midi prendre un tout petit plat, qui sont des pâtes ou même un sandwich jambon beurre qui nous cale absolument pas. Donc forcément, on prend des choses à côté et ça revient très très cher sur la journée. Moi, je peux dépenser des 10€ dans la journée en nourriture au Crous.
Ce que Garance craint notamment, c'est que les proportions soient encore plus petites et que le nombre de repas distribués soit trop vite écoulé.
Une marche blanche aujourd'hui à Grenoble.
Une marche qui intervient après les meurtres de 3 personnes par arme à feu mi-avril. Et Thomas Douéré, ce rassemblement a pour but d'appeler à l'arrêt des violences.
Parmi les victimes se trouvait Oussem, le père d'un élève d'Esdine Miaoui. Sa mort brutale agit comme un déclic.
Dans ma tête, je dis, mais là, c'est inacceptable, il faut faire quelque chose.
Il décide alors d'organiser une marche contre la violence. Sonia, la mère des enfants d'Oussem, se rendra dans le cortège avec sa photo.
J'ai envie aussi de montrer son visage et qu'on voit qu'on a assassiné un père de famille et que moi j'ai mes 3 enfants qui ont quand même 5 ans, 3 ans et 1 an qui vont grandir sans papa.
Un moment d'hommage pendant lequel elle souhaite rappeler que son mari s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment.
Il a pris la balle pour quelqu'un d'autre. Il n'avait aucun ennemi, il n'avait aucune histoire, que ce soit sur trafic de drogue ou quoi. Il ne trempait pas là-dedans.
Pour Esdine Miaoui, l'objectif est également de créer une prise de conscience chez les pouvoirs publics.
Il faut que cette marche blanche serve à quelque chose, réveiller les esprits, que les politiques et les institutions travaillent ensemble pour essayer de faire un blocage à cette violence. Et je pense que les jeunes, ils ont besoin aussi d'être accompagnés correctement.
Un rassemblement qui dérange. Esdine Miaoui dit avoir reçu plusieurs menaces depuis son annonce.
La marche partira à 14h hein, de l'avenue Alsace-Lorraine, direction la place Notre-Dame en centre-ville. Patience, il en faudra si vous êtes sur les routes aujourd'hui. C'est orange sur la moitié nord-ouest du pays dans le sens des retours. Des difficultés attendues en fin de matinée en Ile-de-France.
Vous écoutez RMC, il est 7h05. Le PSG avait la tête ailleurs hier.
Le club de la capitale a concédé un nul de partout contre Lorient en Ligue 1. Les joueurs de Luis Enrique sont déjà focus hein, sur leur demi-finale retour de la Ligue des Champions mercredi. Arthur Perrault.
Oui, Paris a déjà la tête à Munich. Contre Lorient hier en Ligue 1, le club de la capitale a encaissé 2 buts dans un match avec un manque d'envie criant. Mais le milieu de terrain parisien, Drou Fernandez, reste optimiste.
On a dominé, mais on n'a pas réussi à marquer ce but décisif. C'est un adversaire difficile. On a eu 2 ou 3 balles pour gagner. Des joueurs importants n'étaient pas là, mais on a un grand effectif. On va récupérer pour le Bayern.
Paris avait procédé à 9 changements comparés à l'équipe type, l'équipe Ligue des Champions. Des joueurs cadres comme les attaquants Ousmane Dembélé et Gvichak Kvaratskhelia ont pu souffler. Aucun blessé à signaler. L'entraîneur, Luis Enrique.
On a cherché à contrôler de la manière que nous pensons que c'est mieux, mais la première chose qu'on a cherché cette match, c'est à gagner les matchs. Et on a raté sur ça.
Paris peut être rassuré. Au même moment, le Bayern Munich a lui aussi fait match nul face à Heidenheim, dernier du championnat allemand.
Et Lens perd encore des points en Ligue 1. Match nul hier soir, un partout face à Nice. Les 100 et or comptent 6 points de retard sur le leader Paris. Et Metz est officiellement relégué en Ligue 2 après sa défaite hier face à Monaco de 2-1. L'OM humilié hier sur la pelouse de Nantes, défaite 3-0. L'OM pointe à la 7e place ce matin, loin des places qualificatives pour la Ligue des Champions. En revanche, Nantes a montré un beau visage hier et peut encore espérer se maintenir. Une vraie fierté pour le coach nantais Vahid Halilhodžić, qui ne cache pas cependant son amertume face aux précédents résultats de la saison.
Beaucoup de regrets. Déjà, premier match contre Strasbourg, et Brest, Auxerre, on avait regret. On aurait pu faire différemment. Si on a gagné 2-3 matchs, c'est tout à fait normal, non? Mais on n'a pas fait. Et quand je vois qu'une équipe est capable de faire ce type de match, bah bien sûr qu'il y a beaucoup de questions qui se posent.
La suite de la 32e journée de Ligue 1, c'est à 15h. Lille-Le Havre, suivi de 3 rencontres à 17h15. Paris-FC-Brest, Auxerre-Angers, Strasbourg-Toulouse. Et Lyon reçoit Rennes à 20h45. Et c'est bien sûr à suivre sur RMC.
Merci beaucoup Clément. Je vous rappelle que ce matin, Ali, fidèle auditeur d'RMC, est avec nous ici en studio. On passe la matinée ensemble et ce sera comme ça tous les premiers dimanches du mois. Si vous voulez venir, vous nous écrivez sur WhatsApp. Je vous ouvre les portes du studio d'Anaïs ce matin. Ali, Clément a parlé de la lourde défaite de l'OM 3-0 à Nantes dans son journal. Les supporters marseillais sont dépités. Vous êtes supporter lyonnais, ça fait plutôt les affaires de Lyon ça, non ?
Moi j'ai passé une excellente après-midi. Oh,
c'est dur.
Désolé supporters marseillais, mais c'est à l'image de ce qui s'est passé cette saison et aujourd'hui... Ils sont 7e et hier ils ont joué un match de 7e de Ligue 1, malheureusement pour eux.
Fred ?
Oui, c'est même encore pire. Ouais. Oh. Les auditeurs étaient... Mais... En fait, ce qu'on a vu hier de l'OM, c'est même pas un 7e de Ligue 1.
C'est triste.
C'est triste parce que le championnat de France a besoin d'une grosse machine comme l'OM.
Ouais, c'est voilà, c'est les locomotives, avec l'Olympique Lyonnais, le PSG, mais Monaco. Sûr.
Et le...
Le Racing Club de Lens.
Non mais c'est simplement pour savoir s'il va rester jusqu'à 9h ou pas.
Parce que quand on suit la Ligue 1, on sait très bien que cette année le Racing Club de Lens, c'est un peu une anomalie. Personne ne les attendait là. Quand
non,
on
c'est
voit...
vrai. Dixième masse salariale de Ligue 1. C'est notre ça, place, c'est la 10e place. On est 2e et on est en finale de la Ligue des Champions.
De la Coupe de France.
Mais pour nous, c'est la Ligue des Champions.
Ici, puisqu'on parle de Ligue des Champions, Ali, qu'est-ce que vous avez pensé du match de l'année?
Eh ben alors, je vais répondre parce que j'ai vu que Fred avait un avis que j'ai partagé.
Oh!
Je vais m'expliquer pourquoi, je vais donner mes arguments. Parce qu'en fait, quand on est un puriste du football, c'est vrai que tactiquement, moi, j'ai rien vu d'exceptionnel. Par contre, quand on consomme le sport un peu...
Il vous a donné
de l'argent? Non, pas du tout. Non, mais en fait, quand on consomme le foot un peu à l'américaine, ouais, on a eu du spectacle. On a passé un bon moment, mais parce que c'était du foot-spectacle. Tout simplement, c'est mon avis.
Oh, il est très
combien,
bien.
Combien tu lui as donné?
Je pense qu'Ali va venir tous les week-ends maintenant. Reprenez un peu de café, il y a des croissants, c'est ce que vous voulez. Hein.
Vous nous dites si vous êtes d'accord avec Ali et avec Fred. Je vous attends au 32-16. Et j'attends évidemment, je le redis encore une nouvelle fois, les supporters marseillais. Venez au 32-16, je vais vous consoler, même si Ali
venez pleurer sur nos épaules.
Exactement. À suivre dans Anaïs Matin à 7h20, Anthony Morel nous emmène à la Foire de Paris.
Ouais, je vais vous faire visiter la maison du futur et vous allez voir qu'il y a plein de choses à découvrir, notamment dans le domaine de l'électroménager.
À tout à l'heure, Anthony. D'ici là, dans un instant, les histoires de la bande avec Ameline Lafchin, Clément Gouitz, Lucas Laubert et Ali, fidèle auditeur d'RMC, donc qui passe la matinée avec nous, qui va réagir à toutes les actus qu'ont repéré les membres de la bande. On va parler d'une saga qui fête ses 25 ans, du prix des préservatifs qui augmentent à cause de la guerre, et oui, et d'un dauphin, le dauphin de Saint-Jean-de-Luz, devenu une véritable mascotte. Ça va même un petit peu trop loin. On se retrouve dans une minute. À tout de suite.
RMC, 7h-9h. 7-9, Anaïs Matin.
Anaïs Castagna.
Vous écoutez RMC, il est 7h11.
RMC,
Les histoires du week-end.
Avec ce matin, Ameline Lafchin qui remplace Kevin Gasser. Bonjour Ameline.
Salut Anaïs.
Lucas Laubert. Bonjour Lucas.
Bonjour Anaïs.
Clément Gouitz qui est resté en plateau. Je vous présente Ali, fidèle auditeur d'RMC qui passe la matinée avec nous et qui va réagir à vos histoires. Il va les noter.
Attention. Hein.
Allez, qui commence? Ameline, tu nous emmènes dans l'univers d'Harry Potter, c'est ça? À l'occasion des 25 ans de la sortie du premier film de la saga, tu nous donnes des bons plans sortis un petit peu partout en France pour ces beaux jours.
Exactement, avis à tous les moldus, vous avez peut-être déjà rêvé de goûter la bière au beurre, vous savez, cette fameuse boisson iconique de la série. Eh bien, c'est la chaîne Au Bureau qui la propose à sa carte dans ses 214 restaurants partout en France. Autre bonne idée pour la fin mai, si vous habitez du côté de Laval en Mayenne, l'office de tourisme proposera vendredi 29 mai au soir deux visites de la ville théâtralisées façon Harry Potter. Comme dans l'univers de la saga, un chapiteau déterminera votre maison au début de la visite. Et puis, vous devrez gagner des points en répondant aux questions d'étranges professeurs, mais aussi déguster des potions, magie garantie. Vous pouvez réserver votre visite dès maintenant sur le site Laval Tourisme, apprenti sorcier accepté à partir de 10 ans.
À partir de 10 ans?
Ouais, Anaïs, pour tes filles.
Ah bah ouais, mais c'est 9 ans. Bon, 10 ans, ils disent ça, mais bon, je pense qu'on peut ramener quand même ses enfants un petit peu plus. Ali, vos enfants, ils sont dans vos filles, vous avez deux filles, hein, c'est ça, 8 et 9.
C'est ça, à qui je vais faire un gros bisou et je vais répondre ce que ma fille aurait pu répondre. Ah. Papa, je peux y aller, je vais dire que je suis naine.
J'adore. Ouais, vous, elles aiment bien l'univers, elles sont déjà dans l'univers à Harry Potter.
Elles adorent. J'ai partagé aussi parce que moi aussi j'étais un grand fan d'Harry Potter.
C'est vrai?
Ah oui, grand fan.
Vous avez quel âge, je peux vous demander?
Eh ben, 37 ans.
37 ans. Ah, parce que moi, je disais, mais en fait, j'ai raté ça, moi. Je suis un peu dégoûtée parce que ça arrivait un peu tard. J'étais au lycée.
Refais-les. Ça vieillit très bien.
Tu peux te douter que je me refais tout avec mes filles aujourd'hui. Mmh. Vous avez grandi, vous avez été biberonné à Harry Potter, Ameline, Clément, Lucas.
Ouais,
je les
connais par cœur.
On va préparer un sort là, à la pub comme ça.
J'adore. Lucas, tu nous parles aujourd'hui de la mairie de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques qui a décidé de sévir contre le harcèlement.
Oui, mais pas n'importe quel harcèlement, celui de Pomme, de son petit nom, un animal devenu une star depuis quelques mois dans la ville. Alors j'espère que vous l'avez reconnu, sinon il faut réviser vos cris d'animaux.
C'est un chien.
Et non, c'est un dauphin, une dauphine très très docile. Depuis quelques mois, on peut la voir nager, sauter, s'amuser près des nageurs. C'est devenu un vrai spectacle pour les locaux et les touristes sur la plage, à tel point que ça en devient parfois la cohue pour la voir. Elle a photographié, parfois même la touché, avec de plus en plus de dérives. Des paddles s'agglutinent pour la suivre, pour avoir un selfie, et même dans de rares cas, s'accrocher à son aileron. Maman a même essayé de mettre sa fille sur son dos, carrément.
Bref,
ça va trop loin. En effet, ça va trop loin. C'est dangereux pour le dauphin, mais c'est aussi dangereux pour les baigneurs, car même docile, Pomme, ça reste un animal de plus de 200 kilos quand même. Alors, la mairie a décidé de sévir. Sur la plage, des panneaux ont été installés. Interdiction d'approcher l'animal à moins de 100 mètres, sous peine d'amende de 750 euros. Des messages audio vont aussi bientôt être diffusés sur la plage dans 4 langues, et les premières sanctions sont déjà tombées. De quoi calmer les touristes, en tout cas la mairie l'espère, parce qu'avec l'été qui arrive et les touristes qui vont débarquer aussi, bien les débordements pourraient bien se poursuivre si ce n'est s'accentuer.
Mais c'est triste de devoir avoir à faire ça, je trouve. Enfin, c'est pas un jouet, quoi.
C'est
pas un animal de compagnie.
Quand il n'y a pas de bon sens, il faut sévir. Ouais. C'est malheureux à dire, mais c'est terrible.
On termine avec toi, Clément. Tu sais ce qu'on dit, faites l'amour, pas la guerre. Oui, mais comment faire quand le prix des capotes augmente à cause de la guerre?
Mauvaise nouvelle, Fred. Les prix des préservatifs s'apprêtent à grimper. Et même l'amour n'échappe pas à l'inflation. L'entreprise malaisienne Carex, leader mondial du préservatif, annonce une hausse des prix de 20 à 30%, voire plus si le conflit en Iran perdure. Carex, c'est un préservatif sur trois dans le monde. Et les raisons de cette hausse sont multiples. Augmentation du coût des matières premières, explosion des prix de l'énergie, perturbation du transport maritime dans le détroit d'Ormuz. Et cela entraîne donc des retards de livraison, des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. 41% de l'approvisionnement asiatique en liquide d'hydrocarbures utilisé pour produire le caoutchouc provient du Moyen-Orient. Une grande partie de l'huile de silicone et de l'ammoniac nécessaire à la fabrication des préservatifs et de leur emballage en dépend également. Le latex devient clairement
un produit de luxe. Justement, le groupe britannique Rictic Benckise, qui détient Durex, a vu son chiffre d'affaires diminuer de 12% au premier trimestre. Carex se veut rassurant en affirmant disposer de suffisamment de réserves pour tenir encore quelques mois. Près de 108 millions de préservatifs sont utilisés chaque année en France. Et cette hausse pourrait donc avoir des conséquences sur la vie sexuelle des Français cette
j'ai
année.
J'ai cru qu'il allait dire de Fred Herbel. Je vois le regarder avec insistance.
Et même les histoires d'amour devront composer avec leur budget, Fred.
Non, mais je confirme que les boîtes de XXL ont beaucoup augmenté ces derniers temps.
C'est la plus belle chose qui pourrait arriver au monde d'enfants en France.
Plein de
petits
Fred Herbel partout.
Ouais. Donc ça fait en effet partie des produits qui augmentent. Résultat, à cause de la guerre, c'est loin d'être le seul. Tout augmente, vous devez le constater au supermarché. Les prix à la pompe aussi, ils augmentent. On en parle évidemment tous les jours sur RMC. Va-t'en Fred, tu me déconcentres, j'ai compris. Va-t'en. Et Sophie nous appelle au 3216 pour réagir parce que ce matin, on essaie de trouver des solutions évidemment pour payer moins cher, pour réduire la facture. Bonjour Sophie.
Bonjour à tous.
Bonjour. Ravi de vous avoir. On est avec Ali, un fidèle auditeur d'RMC qui est avec nous en plateau.
Bonjour
qui
Sophie.
Qui vous écoute et on
bonjour
est toujours
Ali.
Donc
bonjour
avec Fred. Sophie, vous faites comment vous avec cette hausse des prix des carburants?
Alors moi j'ai réagi de façon un peu étonnante. Dès le 2 mars, j'ai repris mon vélo que j'avais laissé un peu de côté parce que j'avais eu un accident à vélo. À Orléans, on a le tram et ma roue de vélo s'était glissée dans les rails du tram et je me suis cassé une clavicule.
Waouh.
Et ouais. Donc puis les pavés aussi à Orléans ça peut être problématique.
Ouais,
quand
c'est pas fait
pleut,
pour. Ouais, c'est pas le plus pratique, ouais.
Ouais.
Mais vous avez été obligé de reprendre le vélo parce que c'était trop cher.
Ah ben oui, je fais des déplacements en ville pas très loin. Quand on prend le vélo, on peut pas faire 100 km, hein, on est d'accord. Donc je suis rentrée en résistance comme ça, c'est ma façon de. Je fais mes courses à vélo, je vais au boulot à vélo, je vais faire mon sport à vélo, voilà.
Ah oui, c'est marrant, vous dites ça, rentrer en résistance.
Ah oui, parce que je suis prof d'histoire, je sais pas si vous vous souvenez Anaïs, mais.
Oui, je me souviens, et je lis tout, et je lis vos messages tous les matins.
Ouais, voilà, donc c'est ma façon de rentrer en résistance contre cette guerre que j'appelle la guerre des énergies et du carburant. Mm-hmm. Et par contre, je me questionne beaucoup sur comment on va recycler tout ce qui est voiture électrique et vélo électrique quand ça va être le moment de quand ça va plus fonctionner, etc.
Le lithium, c'est ça le problème. C'est ce que vous dites, les batteries en lithium. Oui, c'est une vraie question.
Ça m'inquiète. Ouais, ça m'inquiète pour la planète quand même parce que voilà, c'est on lutte contre les hydrocarbures, mais tout ce qui est batterie, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment ça va être recyclé? C'est quelque chose qui m'inquiète quand même beaucoup. Voilà, je voulais vous en faire part.
Merci beaucoup Sophie de nous avoir appelé ce matin, d'avoir témoigné.
Donc,
merci à vous de réagir, d'être là tous les matins, tous les samedis, tous les dimanches. Je lis les messages de Sophie.
Ouais.
Toujours.
J'espère que vous recevrez Momo et son ami un jour là.
Pierre-Yves.
les deux copains là, c'est super ça aussi. Hein.
Ah bah oui, j'adore.
Il est là, c'est sympa. Voilà.
Ouais. Momo qu'on embrasse ce matin, qui doit être au bout du rouleau. On l'embrasse évidemment. On a une pensée pour lui.
Je l'embrasse très fort.
Et on embrasse Pierre-Yves aussi. On vous embrasse, Sophie. À très vite sur RMC.
Au revoir. Merci beaucoup pour Au revoir.
Merci à vous. Ali, tiens, puisqu'on parle de la hausse des prix des carburants, vous roulez, c'est votre
ça,
métier.
C'est ça, chauffeur polo, ouais, c'est ça.
Est-ce que vous adaptez votre conduite pour moins consommer? Parce qu'on a parlé de ça ce matin, je serai avec Patrick Mirouz, président de l'école de conduite française, juste après le journal de 7h30.
Ouais, on essaye un petit peu de s'adapter. Après, c'est vrai que des fois, c'est compliqué, mais dans l'ensemble, après nous, c'est des habitudes qu'on prenait déjà avant la crise.
Vous n'avez pas attendu la guerre pour faire attention à
votre conduite?
Parce que nous,
sur ce métier, c'est quelque chose sur lequel on est primé. Donc d'avance, on sait que si on fait des économies de carburant, ça veut dire que c'est un peu plus sur la paye.
Ouais.
Mais moi, j'ai concurrencé nos voisins allemands. Parce qu'ils avaient une voiture allemande très puissante. Moi, j'en ai une, elle est française, c'est la BM double pied. Celle-là, c'est zéro CO2 rejeté et elle va très bien pour faire des économies de carburant.
Vous nous dites comment vous faites à la maison pour faire des économies. On va en parler juste après le journal de 7h30 avec donc Patrick Mirouz, président de l'école de conduite française, qui nous dira des astuces. Concrètement, moi, ça m'intéresse. Moi qui ne roule pas, toi, tu fais attention, Fred.
Alors, j'ai plus de voiture depuis que j'habite à Paris.
Ah bah oui.
Mais j'ai conduit pendant depuis que j'ai 18 ans.
Sais comment conduire pour moins consommer?
Oui, alors déjà, c'est simple, c'est de limiter la vitesse.
Oui, d'accord, ok.
Voilà, mais, mais après, tout à l'heure, ça serait une question intéressante à expliquer, à poser
à Patrick Mirouz.
Tout à l'heure, j'avais un auditeur qui expliquait qu'il avait une hybride et qu'il y avait des manières d'utiliser l'hybride. Il faut bien savoir l'utiliser. Et que l'hybride, qui peut être très intéressante quand on est en ville, par exemple, il ne faut pas acheter une hybride quand on ne fait que de l'autoroute, par exemple.
Ah ouais.
Donc, il faut savoir adapter le véhicule à sa consommation, à son rythme de vie.
Bah, tu lui poseras la question. Et d'ailleurs, venez l'interpeller au 32-16. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant avec Anthony Morel. On va parler des innovations pour la maison présentée à la Foire de Paris en ce moment. Notamment un aspi incroyable qui peut changer la vie de tous ceux qui ont des enfants ou un compagnon qui laisse traîner ses chaussettes par terre. À tout de suite, les amis.
RMC jusqu'à 9h. 7-9. Anaïs Matin.
Anaïs Castagna.
Vous écoutez RMC, il est 7h23. Juste avant de retrouver Anthony Morel, je vous rappelle les trois grands titres à retenir ce matin. Le gouvernement redoute une crise sociale entre les bénéfices records de Total Energy, la hausse des prix des carburants. Le Premier ministre tente de rassurer ce matin dans la tribune dimanche et demande à Total Energy d'être plus généreux. Sébastien Lecornu promet d'adapter les dispositifs d'aide en fonction de la durée de la guerre. Un plan iranien pour mettre fin au conflit sur la table de la Maison Blanche. Donald Trump affirme qu'il va l'étudier, mais doute qu'il soit acceptable. Un plan en 14 points. Téhéran réclame le retrait des forces américaines dans la région autour de l'Iran, la levée du blocus naval, le dégel des avoirs iraniens. Et puis rien ne va plus à l'OM. Lourde défaite hier, 3-0 sur la pelouse de l'avant-dernier de Ligue 1, Nantes. L'OM pointe ce matin à la 7e place. C'est dit probablement adieu à une qualification à la Ligue des Champions. On y revient évidemment avec vous au 32-16. Venez nous en parler, amis marseillais. Je vous attends, 7h24.
RMC.
C'est déjà demain.
Avec Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour Anaïs.
Aujourd'hui avec toi, on va aller faire un tour dans les allées de la Foire de Paris qui va accueillir 400 000 visiteurs jusqu'au 11 mai prochain. L'occasion de découvrir à quoi va ressembler la maison du futur.
Oui, notamment toute la partie électroménager. Alors il y a un gros focus sur les appareils de demain et la grande tendance c'est de mettre de l'intelligence artificielle dans absolument tous les objets de la maison, dans la cuisine, dans la chambre, dans la salle de bain. Quelques exemples, un frigo équipé d'une caméra capable de reconnaître les aliments qu'on met à l'intérieur, de déterminer leur date de péremption et de te prévenir quand ton litre de lait ou tes légumes arrivent à
ça, péremption. C'est pas mal.
C'est pas mal, parce qu'on propose des recettes et ça évite évidemment le gaspillage. Ça peut être aussi la machine à laver qui, grâce à l'intelligence artificielle, va analyser elle-même le linge qu'on met à l'intérieur, le poids du linge, le type de textile, mais aussi le niveau de saleté. C'est-à-dire faire la différence entre un maillot de foot qui est très boueux et puis un t-shirt qui a à peine été porté. Et du coup, on va optimiser la quantité de lessive, d'eau et d'électricité qu'on utilise. Donc ça peut être intéressant également. Et puis les aspirateurs robots, alors ça, il y en a à foison évidemment. Moi, mon petit chouchou, parce que les aspirateurs robots, maintenant, ils ne se contentent plus de nettoyer, ce serait trop facile. Non, c'est le robot aspirateur qui va aussi ranger la maison, c'est-à-dire qu'il est équipé d'une petite pince robotique et quand il détecte, je ne sais pas, une chaussette qui traîne par terre ou une brique de Lego, eh bien, la pince robotique va sortir, venir se saisir.
Mais non, je savais pas que ça existait.
Ah, mais c'est incroyable.
Mais je veux ça.
Mais bien sûr.
Mais moi, il n'arrêterait jamais avec mes filles.
Ah bah, c'est tout le problème. Alors, il a du boulot parfois. Dans certains appartements ou dans certaines maisons, ce petit robot, effectivement, et il va aller ranger dans un panier tout ce qui traîne à la maison. Pas mal, bonne idée.
Pas mal d'innovations aussi autour de la santé connectée.
Oui, alors notamment tout ce qui est balance, pèse-personne connectée, mais de nouvelle génération. Les balances connectées, ça existe depuis des années, mais il y en a une qui est présentée par WeThings, où en gros, tu restes debout sur ta balance pendant un peu plus d'une minute et ça va faire une sorte de check-up complet de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Ça va analyser plein
déjà
de choses.
Que la balance en soi, c'est l'enfer.
Oui, alors là, tu vois, ça va beaucoup, beaucoup plus loin parce que ça va analyser la souplesse de tes artères, la densité des nerfs, la puissance de la pompe cardiaque. Donc c'est pas juste le nombre de battements par minute, c'est vraiment est-ce que ton cœur pulse bien, quoi. Voilà. La vitalité des cellules. En fait, on a miniaturisé dans Space Person un certain nombre d'appareils médicaux qui permettent de mesurer des signaux faibles qui nous disent très en amont si on n'est pas en train de développer certaines maladies chroniques. Tu sais, ces maladies qui sont très insidieuses, qui s'installent dans nos vies sans qu'on sente forcément les symptômes. Et donc là, on va pouvoir les détecter en amont et pouvoir potentiellement prévenir le médecin. C'est aussi ça
ça l'intérêt de ces objets connectés pour la santé. Alors après, le risque, c'est ce que tu disais hein, d'un mot, c'est que c'est toujours pareil avec ce genre d'instrument. Est-ce que ça ne va pas tous nous transformer en une génération d'hypochondriaques finalement?
Oui, mais tu l'es déjà un petit peu toi.
Moi, je le suis déjà, mais bon, j'ai pas envie de rendre de le faire pour les autres, quoi.
Merci, Anthony. Il est 7h27, à suivre dans Anaïs Patin, on va parler des stages d'éco-conduite qui se multiplient. De plus en plus d'entreprises passent par des auto-écoles pour former leurs salariés, gros rouleurs, leur donner des clés pour moins consommer. On sera avec Patrick Mirouz, président de l'école de conduite française, juste après le journal de 7h30. À tout de suite. Vous écoutez RMC, il est 7h30.
RMC 7-9, Anaïs
Matin. Et le
Matin.
Journal est présenté par Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Lourde défaite de l'Olympique de Marseille face à Nantes. Les repas à 1 euro au Crous disponibles pour tous les étudiants dès demain. Et Donald Trump qui doit étudier un nouveau plan proposé par l'Iran pour tenter de mettre fin au conflit au Moyen-Orient.
Marseille s'est écroulé à Nantes.
3-0 face à un adversaire aux portes de la Ligue 2, incapable de réagir après deux défaites consécutives. Les joueurs de l'OM disent quasiment adieu à une qualification en Ligue des Champions. Et cette fois, Pierre-Yves Leroux, il n'y a plus personne pour les défendre.
Mais ils sont où les Marseillais? Alors que les supporters nantais s'interrogeaient en voyant le naufrage des joueurs de l'OM qui ont coulé en 8 minutes à l'heure de jeu en encaissant 3 buts, le coach Habib Bey, groggy, ne voulait pas se cacher à l'issue de la rencontre.
Il n'y a rien dans notre match. Et comme il n'y a rien en termes d'émotion, en termes de désir, en termes de volonté collective, en termes de qualité, on a ce qu'on mérite aujourd'hui. Ce que je leur ai dit, c'est que là, je ne pouvais pas les protéger.
L'OM est désormais à 4 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions, avec un match de plus que Lyon, Lille et Rennes devant au classement. Et il ne reste plus que 2 matchs et 6 points à distribuer. Des constats comptables qui semblent laisser Bey impuissant.
Aujourd'hui, on s'en éloigne de plus en plus. Il faudra se remobiliser pour le prochain match au Havre. Mais la réalité aujourd'hui, je ne vais pas renverser mon vestiaire. Je ne vais pas venir et remettre en question tout le monde. Mais si on a la même attitude, ça sera le même résultat. Et on glissera tout doucement vers une mort tranquille d'ici la fin de saison. Et ça se finira à un moment donné.
Sans réaction lors des deux prochaines rencontres face au Havre et Rennes, les Marseillais, 7e au classement ce matin, pourraient même être privés de toutes les Coupes d'Europe.
Pierre-Yves Leroux pour RMC.
Et une pensée à Maher qui nous écrit ce matin sur WhatsApp en nous disant qu'il est dégoûté comme de nombreux supporters marseillais.
C'est pas la joie.
Venez nous en parler, on pense à vous évidemment. Et on vous attend au 32-16. Les étudiants vont bénéficier d'un repas à 1 euro dans les Crous.
Oui, la mesure entre en vigueur demain, peu importe les revenus de ces étudiants. Une généralisation saluée par les syndicats étudiants qui dénoncent toutefois une mesure compensatoire au budget insuffisant. Laurie Chabert est membre de l'Union étudiante. Écoutez.
C'est une bonne chose, la généralisation du repas à 1 euro, puisqu'il y a beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui sont précaires. Par ailleurs, c'est une mesure qui n'est pas assez financée aujourd'hui, et on le voit déjà avec des effets sur le terrain, puisqu'il y a des restaurants universitaires qui vont supprimer des entrées ou des desserts. Ce qu'on craint, c'est que les portions soient réduites, que les repas soient de moins bonne qualité, qu'il n'y ait pas assez de repas pour tout le monde. On craint que, oui, au prochain projet de loi de finances, la mesure, ça ne soit pas reconduit ensuite.
La rêve partie dans le Cher, toujours en cours, au moins 17 000 personnes toujours présentes, selon la préfecture. Des démineurs sont hier soir intervenus après la découverte d'un obus en périphérie de l'événement. Les autorités ont dès le départ vivement critiqué le choix du terrain fait par les organisateurs. Il s'agit d'un champ de tir militaire où peuvent encore se trouver des munitions.
Un nouveau plan iranien pour la fin du conflit au Moyen-Orient.
Un plan que Donald Trump dit étudier, mais alors que la situation est toujours dans l'impasse entre les deux pays depuis presque un mois de cessez-le-feu, le président américain prévient, peu de chance qu'il accepte ce plan, Luc Allobert.
Je ne peux m'imaginer qu'il soit acceptable. Voilà ce qu'écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social hier. Dans ce plan en 14 points, Téhéran réclame un retrait des forces américaines des zones proches de l'Iran, la levée du blocus des ports iraniens ou encore le versement de réparations. Aucune mention au dossier du nucléaire, alors même qu'il s'agit d'une question centrale pour les États-Unis et Israël. Et alors que Donald Trump se dit déjà sceptique, il laisse planer la menace de nouvelles opérations militaires. Les Iraniens n'ont pas encore payé un prix suffisant pour ce qu'ils ont fait à l'humanité, écrit-il. Une tension et des menaces toujours présentes. Donc, hier, un haut responsable militaire iranien a jugé probable une reprise de la guerre avec les États-Unis.
Les précisions de Luc Allobert pour RMC.
Les avions de Spirit Airlines, définitivement cloués au sol.
Une compagnie américaine plombée par la hausse des prix des carburants, contrainte d'annuler tous ses vols et de stopper progressivement son activité. Conséquence des prix du kérosène qui ont plus que doublé depuis le début du conflit avec l'Iran. Est-ce que d'autres compagnies aériennes pourraient subir le même sort? Élément de réponse avec Léonie Guilbeault.
Oui, car la flambée du prix du kérosène entraîne un choc des coûts d'exploitation pour les compagnies aériennes, explique Sarah Laurent, enseignante-chercheuse et spécialiste du transport aérien.
Habituellement, déjà, le coût du carburant représente 30% de leur coût d'exploitation. Et en fait, avec la flambée du prix du kérosène, ça vient à augmenter jusqu'à 45%. Donc, ça pèse très, très lourd pour les compagnies.
Dans le secteur aérien, les marges sont faibles, de l'ordre de 3 à 4%. Très compliqué alors d'absorber le surcoût, surtout pour les compagnies les plus fragilisées.
À moins d'avoir une classe business et une classe first, c'est très difficile d'être rentable avec une classe économique. Donc forcément, les low cost sont très impactés. Il y a déjà des compagnies qui annulent certains vols pour faire en sorte qu'on puisse remplir réellement des avions.
Autre solution envisagée par les compagnies, augmenter le prix des billets.
En faisant payer des bagages supplémentaires ou des choses comme ça qui étaient compris dans le prix et qui là deviendraient des options payantes pour tenir dans la crise et l'après-crise.
Mais la hausse des prix entraîne une baisse de la demande, ajoute-t-elle. Et si la crise dure, certaines compagnies aériennes low cost pourraient être contraintes de stopper leur activité.
Léonie Guibaud pour RMC. L'on passe au sport. À présent, en basket, Monaco défie Strasbourg ce soir à 19h avec dans ses rangs l'une des attractions du championnat de France. Maxime Klitschko, 2m16 et surtout le fils de Vitali Klitschko, multiple champion du monde de boxe devenu depuis 2014 maire de Kiev. Maxime Tilliette l'a rencontré pour RMC.
Oui, Maxime Klitschko se développe loin de son père, symbole de la résistance ukrainienne depuis le début du conflit en 2022.
Je l'ai vu deux ou trois fois depuis le début de la guerre. Bien sûr, il doit être là-bas et donne le meilleur pour défendre le pays, donc je comprends la situation. Mon père, ma famille sont des super personnes. Je porte ce nom de famille avec fierté et c'est un privilège.
Son entraîneur Mickaël Pivot l'aide à sa manière.
Quand tu sais que ton papa est bloqué là-bas et sous les bombes, c'est pas quelque chose de très agréable. Il a très bien verbalisé ça et c'est quelqu'un qui échange beaucoup, donc c'est très facile d'aller chercher ce qu'il ressent. Forcément, c'est pas quelque chose de confortable, mais bon, ils vivent avec ça depuis maintenant très longtemps.
Sportif de haut niveau également, Maxime ne s'imagine pas ensuite faire de la politique comme son père.
Je ne préfère pas. Mon père dit que sa carrière de sportif était la partie la plus facile de sa vie. La politique est très exigeante et stressante. Je n'en vis pas sa position actuellement. C'est très difficile, mais je pense qu'il fait un super travail. Si je devais m'engager un jour en politique, j'espère être aussi bon que lui.
Avant cela, c'est sur les parquets qu'il s'exprime. Plutôt bien d'ailleurs, puisqu'à 21 ans, il est déjà international ukrainien.
Et un petit mot des autres résultats de Ligue 1 avec Lens, Nice, un partout, et PSG Lorient, match nul également, deux buts partout. On termine, Anaïs, avec ces 2 millions de personnes venues écouter Shakira. Gigantesque concert gratuit de la star colombienne dans une ambiance survoltée sur la plage de Copacabana à Rio face à un public en folie. Shakira a joué ses titres les plus connus comme Waka Waka qu'on est en train d'écouter. Elle était pas loin de battre le record précédent qui avait réuni sur cette même plage plus de 2 100 000 fans de Lady Gaga l'an dernier. Bon, ça reste quand même une belle performance. Hein.
Oui, c'est pas rien. Shakira, Palamel, on valide.
Ah oui.
Ça, on valide. Hein.
Ça, on valide.
Le PSG passe, mais Shakira, ouais.
Ouais, ouais. Il y a son album où elle dit qu'elle quitte Madrid, est très très beau.
Ah oui, d'accord, ok.
Aïté de Madrid.
Ah, avec l'accent. Ali, Shakira, on aime bien. Ali, fidèle avec, auditeur d'RMC. Hein.
On a grandi avec.
On a grandi avec, eh bien, évidemment, ouais, ouais. Évidemment. Ça rappelle des souvenirs à certains. Merci en tout cas, Grégoire. Ça fait du bien d'entendre un peu de Shakira le matin pour se réveiller. Je vais parler d'un truc. Un peu moins sympa, les prix des carburants qu'on subit, on va le dire, hein, depuis le début de la guerre. Patrick Mirouz, président du réseau ECF, premier réseau d'auto-école en France, est avec nous dans un instant pour nous parler des stages d'éco-conduite qui se multiplient depuis la guerre. Et je vous attends, vous, évidemment, au 32-16. À tout de suite.
RMC, 7h-9h. 7-9, Anaïs Matin.
Anaïs Castagna.
Vous écoutez RMC Anaïs Matin, il est 7h40.
RMC.
L'invité du jour.
Notre invité ce matin, c'est Patrick Mirouz, président du réseau ECF, premier réseau d'auto-école en France. Bonjour.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Et merci bonjour. D'être en direct avec nous. Il y a Ali, fidèle auditeur d'RMC, qui est avec nous en plateau. Et Fred Armel, évidemment, toujours avec moi. Ce matin, j'ai voulu vous avoir parce que, au sujet de ces stages d'éco-conduite, il paraît que depuis la guerre, de plus en plus d'entreprises passent par les auto-écoles pour former leurs salariés aux bonnes pratiques, pour leur permettre d'avoir les clés, pour moins consommer, moins dépenser, alors que les prix des carburants sont extrêmement élevés. Vous confirmez, Patrick Mirouz ?
Ben oui, parce que aujourd'hui, face au coût du carburant, les Français et puis même les entreprises d'abord hein, cherchent des solutions concrètes. Et nous, on a une bonne nouvelle, c'est que l'éco-conduite, c'est simple, on peut moins consommer, moins polluer, tout en conduisant plus sereinement. Et on a une demande qui augmente.
On peut faire vraiment beaucoup d'économies. Est-ce que vous pouvez nous donner, je sais pas, un chiffre à l'année, une éco-conduite, ça permet d'économiser combien? Concrètement.
Alors, ça dépend combien de kilomètres vous faites, ça dépend le type de véhicule que vous faites, le type de trajet, mais de façon générale, alors moi je fais avec les stagiaires qu'on a et le retour que j'ai sur les agences ECF, on peut économiser jusqu'à 15% de carburant. 15% de carburant, c'est énorme. C'est très simple. Vous prenez une personne, vous la faites conduire 20 minutes, 25 minutes sur un trajet, vous lui donnez 2-3 conseils et vous voyez, mais ça dépend de la conduite qu'elle avait avant, qu'elle, à minimum, je dis bien à minimum, on consomme 15%. L'éco-conduite, attention, c'est pas une conduite plus lente, c'est une conduite plus anticipée, plus apaisée, plus sereine et donc plus sûre.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que Fred, tu me disais quoi tout à l'heure, il fallait ralentir.
Oui, en fait, oui. Moi, ce que je fais, c'est que, et beaucoup de gens dans mon entourage mettent le limitateur de vitesse, par exemple, en se disant, voilà, pour moins consommer. Parce que si à l'autoroute, vous, déjà, vous limitez à 130, vous êtes à 150, vous savez que vous allez dépenser plus d'énergie.
Est-ce qu'il fait bien, Fred Hermel?
Oui, pas de le mettre à 150, mais à 130, oui, 130, sur l'autoroute, oui. Bien sûr, Fred.
Et de ne pas rouler à 150, je veux dire, c'est...
Oui, non, bien sûr, mais vous avez raison. Alors, plus on va vite, plus on consomme, c'est clair. Vous avez les ADAS, le régulateur, c'est un vieil outil. Il y a le régulateur adaptatif maintenant. Effectivement, on peut l'utiliser. Ce qui est vraiment important pour l'éco-conduite et les conseils qu'on peut donner, ça va être sur plus que sur l'autoroute, et sur la conduite en ville, est-ce qu'il faut faire des accélérations franches ou est-ce qu'on fait du sur-régime ou du sous-régime. Il ne faut pas faire les deux parce que si on accélère trop fort, on va consommer plus. Et si on n'accélère pas assez, on va consommer moins. On va consommer plus aussi le sous-régime, excusez-moi. Une fausse idée juste, parce que ça c'est... Est-ce qu'on peut... Parce que souvent, nous on a des gens qui disent, parce que il y a plein de fausses idées là, sur le sujet. Hein. Est-ce qu'on peut rouler au point mort quand on a une boîte manuelle en descente? Absolument pas. Trop risqué. Pas de contrôle du véhicule, usure des freins et interdit par la loi.
Donc ouais, l'éco-conduite, c'est aussi rappeler que c'est important d'entretenir son véhicule, ne pas trop le charger. Est-ce que quand le véhicule est trop chargé, on consomme moins aussi hein?
Quand il est plus chargé, effectivement, on consomme plus. Il faut éviter les galeries sur le toit, quoi. En fait, ça fait plus trop les coffres de toit et tout ça, parce qu'il y a une prise au vent qui est plus grande. Privilégier les petites remorques et puis privilégier effectivement de voyager léger quand c'est possible, quoi. En fait.
Et limiter aussi tout ce qui consomme de l'énergie, par exemple la clim. On la met pas du tout.
La clim, c'est quand même le confort, quoi. J'ai pas dit ça. Vous savez que sur les véhicules électriques, il y a quand même tous ces environnements consomment beaucoup plus. Mais si vous mettez la clim et que vous avez vos vitres ouvertes et votre toit ouvrant, si vous avez un ouvert, ça n'est pas conseillé. C'est pour ça que toutes les véhicules électriques n'ont plus de toit ouvrant d'ailleurs. En fait, elles ne sont plus équipées de toit ouvrant. Ce que je veux rappeler, c'est que vous avez les conducteurs, c'est la cible des entreprises, parce que quand vous avez une flotte de véhicules, même si vous avez 4-5 véhicules, que vous consommez 15% au 100 km, dans l'environnement actuel, ça peut intéresser tout le monde. Mais il y a un problème plus important que je voulais signaler ici, c'est qu'en fait, les conducteurs, quand ils ont le permis, on les revoit plus de toute leur vie, quoi, en réalité. Et ces stages d'éco-conduite, je le dis ici, c'est pas pour conduire plus lentement, c'est pour conduire de façon plus apaisée, conduire de façon
oui,
plus
alors,
apaisée.
Oui, alors, j'entends ce que vous dites, sauf qu'il y a des points maintenant sur le permis de conduire grâce à l'éco-conduite, ouais. Non? Donc, on est alors, censé, si on a notre permis, on est censé avoir quand même un bagage minimum sur ça.
Oui, on passe...
Pour les plus jeunes, moi, je n'ai pas vu. Hein.
Bien sûr, la supervie, vous avez raison, Anaïs, c'est 17 ans. L'âge moyen, c'est 23. Mais toute une vie de conducteur, c'est 40 années derrière, ou 50. Hein.
Ouais.
Donc, on peut oublier les choses. Alors, vous avez raison, il y a un
point de mauvaises habitudes. Et on prend de mauvaises habitudes en conduisant. Hein.
Absolument, absolument. Il y a deux sujets, en fait. Et si vous voulez, peut-être je terminerai sur le sujet d'apprendre jeune, mais surtout, c'est apprendre tout au long de la vie, parce que les mauvaises habitudes, elles arrivent vite, et parce qu'on peut se faire de vraies, fausses, bonnes idées, et que parfois, un petit stage permet effectivement de remettre les choses en place. Il devrait même être pris en charge, je vais dire, par la caisse d'assurance maladie, ces stages-là.
Ah oui, ça coûte combien? Oui,
bien sûr. Oh, ça dépend, mais on est entouré, grosso modo, une centaine d'euros la journée, quoi, en fait. Et donc, c'est pas non plus des choses qui sont exceptionnelles, quoi, en fait.
Ouais, mais c'est pas donné vu le contexte, hein, j'ai envie de dire. Puis
la sécu,
Oui, oui, mais vous savez combien coûtent les accidents de la route à la sécu? Voilà, c'est ça.
Ce qui est sûr, c'est que vous ne devez pas avoir beaucoup de particuliers, parce que qui peut sortir 100 euros comme
mais
ça
non,
les Français ont déjà du mal à se payer le plein.
Non, mais il n'y a pas de particuliers. Les particuliers, on les forme dans le cadre des formations permis. La formation éco-conduite, c'est transversal. Il y a uniquement des entreprises que dans le cadre du plan de formation de l'entreprise. Quoi. Bien sûr. Okay. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les conducteurs devraient être accompagnés et on ne veut pas alourdir le prix du permis. Bien sûr, il n'est pas question d'alourdir le prix du permis. Ah. Il faudrait trouver une solution. On trouve bien des solutions quand il s'agit de sujets de société.
Ali, notre auditeur qui est avec nous en plateau a une question à vous poser.
Bonjour monsieur. Moi j'ai une question parce que je n'arrive pas trop à m'en sortir là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez des carburants? Parce qu'aujourd'hui, on en a beaucoup des différences, surtout sur le gasoil. Vous avez l'Excellium, vous avez des gasoils un peu différents de ce qu'on a l'habitude de mettre. Et est-ce que si je change, que je mets de l'Excellium par exemple, est-ce que je risque de moins consommer ou pas?
Alors, je vais essayer de vous répondre le plus honnêtement possible. Je suis pas franchement un spécialiste des carburants. J'ai pu tester. Alors, d'abord, je vais dire, on utilise de moins en moins du diesel. Nous, en école de conduite, bien nous a pris puisque le diesel est très cher aujourd'hui. On a pu constater une augmentation effectivement avec des carburants comme l'Excellium qui sont un peu mieux raffinés. Mais je peux pas vous affirmer une statistique de façon scientifique. Quoi, en fait, je suis désolé. Ce que je dirais aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on utilise de plus en plus, nous, des véhicules hybridés, et on voudrait bien utiliser des véhicules électriques, mais ils sont encore beaucoup trop chers.
Ah oui, c'est ce que j'allais demander. Comment vous faites en ce moment? Parce que vous êtes les premiers à la subir, cette crise.
Oui, alors les premiers à la subir, on n'a pas d'aide, j'en parlerai tout à l'heure. On est considéré comme des organismes de formation et pas comme des maillons essentiels à la mobilité. Pourtant, on est le premier maillon de la mobilité. Si vous n'avez pas le permis, vous ne vous déplacez pas sur le territoire. Donc, comment on fait? On peut même pas augmenter nos prix parce que en réalité les contrats, et c'est tout à fait normal, les consommateurs sont les gens qui conduisent aujourd'hui avec un carburant qui a pris vous savez combien il a pris.
Pour les contrats déjà signés, il y a un engagement, mais pour les contrats à venir, vous pourriez augmenter vos prix, non?
Ah ben oui, mais les contrats à venir, ils seront formés dans peut-être 2 mois, quoi, en fait. Et peut-être que le carburant, il aura baissé, alors ça veut dire que les nouveaux seront punis, quoi.
Mais si vous voulez à l'hybride, logiquement, vous consommez moins, donc vous n'êtes pas trop impacté sur le gasoil.
Le gasoil, mais enfin, l'hybride, il a quand même augmenté, il est quand même à 2 euros, quoi, en fait.
Et oui, donc, mais étant donné que quand on prend des cours de conduite, on est en majeure partie du temps sur la ville, on sort, oui, quand on est dans la ruralité, on est beaucoup au-dessus de 50, mais quand on passe un permis en centre-ville, généralement, on est beaucoup plus sur l'électrique que sur le gasoil. On est beaucoup plus dépendant de l'électrique.
On est sur tout le territoire, donc on est centre-ville et c'est 50-50 la formation, hein, l'impact de l'hybride, ça nous a pas changé. Il y a une vraie solution qui nous a changé, c'est qu'aujourd'hui, il y a les simulateurs de conduite, en réalité. On développe de plus en plus l'apprentissage des simulateurs de conduite, et là, c'est vrai. Il n'y a pas d'émissions, il n'y a pas de consommation, et on peut tester toutes les situations. Moi, juste pour vous rappeler que, au niveau de l'ECF, on a un objectif 2028, c'est de diminuer d'un tiers le parc de notre véhicule au profit de l'apprentissage sur simulateur.
Ah oui, alors maintenant, on va passer le permis de conduire sur un simulateur. Ouais,
non, mais... on va pas passer à...
Non, mais j'ai compris, voilà. Mais en tout cas, il y aura...
Vous savez, depuis 40,
on passera
depuis
plus de temps, malgré tout, sur un simulateur, plus qu'en voiture.
Depuis... depuis 50 ans, les pilotes d'avion passent du temps sur simulateur, les pilotes de course aussi. On peut isoler tous les exercices et c'est beaucoup plus bénéfique et ça coûte moins cher à l'élève.
Merci beaucoup Patrick Mirouz, président du réseau ECF, premier réseau d'auto-école en France, d'avoir été avec nous ce matin. Et j'ai bien compris que vous estimez être les grands oubliés. Vous lancez un message au gouvernement ce matin. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RMC. Vous qui nous écoutez, vous réagissez. Il est 7h51 à suivre sur RMC juste avant la météo et le journal de 8h. Ameline Lafchin va nous parler d'un fromage qui cartonne sur les réseaux sociaux. Fromage qui est parfait quand on fait attention à son Summer Buddy. À tout de suite les amis.
RMC 7-9, Anaïs Matin,
Anaïs Castagna.
Vous écoutez RMC, il est 7h52.
RMC,
l'œil des réseaux,
avec Ameline Lafchin qui remplace Kevin Gasser aujourd'hui. Ce matin, tu nous parles du fromage, Ameline, dont tout le monde parle en ce moment sur les réseaux, la cancoyotte. Ce fromage crémeux franc-comtois pourrait bien détrôner le comté comme le fromage préféré des Français.
Oui, sur les réseaux ces derniers jours, on ne parle que de la cancoyotte, la cancoyotte. Moi, j'ai toujours dit cancoyotte. Et en fait, je me suis rendu compte que je le disais très mal. Donc, on dit cancoyotte ou cancoyotte en fonction de là où on vient. Bon bref, tout est parti d'une vidéo de l'influenceur Johan Paps, 1 500 000 abonnés, qui a publié une vidéo la semaine dernière dans laquelle il vante les mérites de ce fromage onctueux, presque liquide. Écoutez-le.
Pourquoi personne ne m'a prévenu en fait? Parce que là, ma diète vient de changer à tout jamais. Pour 100 g de cancoyotte, 8 g de gras, 16 g de prot, comment c'est possible? Attendez, ça veut dire que quand tu te fais en gros tes pommes de terre dégueulasses là au four, ça veut dire en gros tu peux te faire une petite fondue comme ça, hop. Je suis sur un nuage de fromage et j'ai qu'une seule chose à dire, merci la Franche-Comté.
Plus de 3 millions de vues en cumulé sur Instagram et TikTok et forcément, ça a inspiré plein d'Instagrammeurs et de TikTokers qui se sont empressés de faire leur vidéo test de la cancoyotte. Elle est partout, elle dégouline et coule dans nos fils d'actualité. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut? Eh ben, Jonah, étudiant en diététique et TikToker, confirme les vertus du fromage franc-comtois à ses 118 000 abonnés.
Ça, c'est le fromage le moins calorique qui existe. À peine 10 grammes de lipides pour 100 grammes. C'est presque 3 fois moins que certains fromages. C'est aussi une bonne source de calcium et de zinc. Et donc, c'est idéal si vous êtes en sèche ou en perte de poids. Ça vous apportera des protéines sans trop de calories et sans trop de lipides. Ça se mange aussi bien chaud que froid.
Voilà, le summer body à la cancoyotte, on l'avait pas vu venir, ça risque de se bousculer au rayon fromage dans les supermarchés. Et d'ailleurs, c'est le constat que font certains internautes, l'emplacement pour la cancoyotte est parfois vide au rayon frais, alors que les ventes de ce fromage étaient déjà en hausse de 7% en 2025, selon l'IPG cancoyotte.
T'aimes bien, toi?
J'adore, j'aime tous les fromages, moi. Ouais. Alors,
Ali?
Mais
pas un grand fan.
Non, de là détrôner le comté, non. Moi, je préfère manger des choses bien grasses que d'en manger moins.
Le gras.
C'est la vie, le gras.
Fred,
je n'ai jamais goûté la cancoyotte.
Non.
Mais je vais le faire, c'est sûr.
On te ramène le week-end prochain, Fred.
Oh, merci.
Pour le petit déj.
Merci beaucoup, Ameline. 7h54.
Anaïs Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus de Fred avec Fred Hermel qui veut nous parler de Pour le plaisir, un film qui sort ce mercredi dans les salles.
Pourquoi vous venez me voir qu'aujourd'hui? Je n'ai jamais eu d'orgasme. Si vous voulez jouir, va falloir bosser, travailler, lâcher prise.
Oui.
Virer la culpabilité. J'ai envie de jouir. J'ai le droit. Il va falloir parler à votre mari.
En 20 ans, t'as jamais joué?
Non.
10 femmes sur 10 avouent déjà avoir simulé.
La taille moyenne au repos serait de...
Dame !
Ça fait envie, hein. Alors, je vous raconte l'histoire de ce film. Vous avez quelques petits éléments dans le trailer. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Aucun nuage ne pointe à l'horizon. Mais voilà, un jour, un secret éclate. Fanny n'a jamais eu d'orgasme. Alors, c'est un tremblement de terre pour le mari qui commence à se poser beaucoup de questions.
À se remettre en cause,
c'est comme tous les hommes. Ouais. Hein, il se pose des questions sur ses propres performances. Alors, comme Tom est ingénieur, il décide alors de relever un défi compliqué et tendre à la fois. Créer l'objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Un sextoy de nouvelle génération. Ensemble, ils se lancent dans cette recherche aussi déjantée qu'émouvante qui va finalement transformer leur couple.
Une comédie portée par Alexandra Lamy et François Cluzet.
Oui. Pour le le plaisir, c'est aussi bien entendu cette chanson mythique d'Herbert Léonard. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de mettre un petit extrait. Hein. Bon, revenons à notre sextoy. Vous savez, c'est une histoire inspirée de celle de Brigitte et Michael Henke, des inventeurs allemands du fameux Womanizer. Et puis oui, il fallait deux acteurs très populaires pour un tel film, et je dirais même deux personnes en qui chacun peut s'identifier. Alexandra Lamy et François Cluzet forment un couple très crédible dans ce film printanier réalisé par Rim Kérissi. Ça sent le gros succès, j'ai l'impression.
Merci beaucoup, Fred. À suivre dans Anaïs Matin, Cyril Leroy, double champion de France de barbecue, qui est en train de faire le plus long barbecue du monde du côté de Lyon. Tiens, du côté de chez vous, Ali, celui qui dure le plus longtemps, objectif tenir 74 heures à faire cuire merguez, chipot. Je sais pas si vous vous en rendez compte, il va tout nous raconter. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour vous demander, c'est quoi un bon barbecue? Vous aimez ça, vous, le barbecue, Ali?
Ah, je suis un grand fan du barbecue. Mais le barbecue, il est bon quand on est avec aussi les bonnes personnes.
Il a tout dit, Ali. Ouais, oui. Il est trop fort, Ali, en fait.
Ah, moi, j'aime beaucoup.
Ouais. On va le recruter.
Ouais, chroniqueur.
On le prend toutes les semaines, dit Ameline Lafchin. Vous restez avec nous, Ali, fidèle auditeur d'RMC, qui passe la matinée avec nous ici même en plateau à Paris. C'est un bonheur si vous voulez faire comme lui, nous rejoindre. Vous êtes évidemment les bienvenus à la table d'Anaïs Matin tous les premiers dimanches du mois. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour le journal de 8h. À tout de suite.
RMC, Anaïs Matin.